Bonsoir. Donc, à mes côtés, Harry Gruyert, photographe de chez Magnum, dont j'ai eu la chance de publier à ce jour 3 livres. Le dernier paru au printemps 2015, à l'occasion de l'exposition que la Maison européenne de la photographie lui a consacrée, une rétrospective de son œuvre. Et je me présente, je m'appelle Marie-Anne Théry et je dirige donc cette maison d'édition, les éditions textuelles. Alors d'abord, Harry, pour commencer, j'aimerais simplement qu'on te présente et qu'on revienne sur quelques éléments de ta vie, de ton parcours, et en particulier de tes débuts et de tes origines belges, qui expliquent ce nom imprononçable pour nous. J'ai toujours pas trouvé le bon son.
Bonsoir. Écoutez, j'ai eu de la chance, j'ai toujours su que je voulais faire de la photo ou du cinéma. Donc, jamais pensé à faire autre chose. J'avais un peu de chance aussi parce que mon père, il travaillait chez Gewart, qui est devenu après Agfa, et à la maison, il y avait toujours un Rolleiflex qui traînait, un paillard 16 mm. Lui, il filmait toute la famille, toutes les naissances, tous les communions, il filmait beaucoup. Donc, je suis vraiment tombé dedans. J'ai toujours, malgré ça, mon père en fait ne voulait pas que je devienne photographe parce qu'il trouvait que c'était un métier pas sérieux, c'était des gens pas très sérieux, il en connaissait. Je viens d'une famille de 6 enfants très catholiques, donc c'était un peu, c'était pas sérieux. Donc j'ai beaucoup insisté pour finalement persévérer et donc j'ai quand même fait une école à Bruxelles qui était très mauvaise parce que bon, on n'apprenait rien, mais le grand avantage à Bruxelles en rapport avec Anvers d'où je venais, c'était quand même à 50 km tous les jours aller-retour, il fait des films bien plus intéressants à voir à Bruxelles qu'à Anvers. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps dans le cinéma qu'à l'école, ce qui était une très bonne chose parce que j'ai appris beaucoup plus de choses là-bas.
Et tu as dit d'ailleurs que le cinéma est resté pour toi un élément fondateur de ta formation, de ton regard. Et tu te souviens combien dans les années 70 on y allait quasiment tous les jours?
Tous les jours, oui. Non, pour moi, mon éducation, c'est vraiment pas la littérature, c'est vraiment le cinéma. J'ai même appris les langues. Donc moi, je suis flamand, donc j'ai appris beaucoup plus le français et l'anglais en regardant des films, en me forçant de ne pas lire les sous-titres. Et ça m'a appris. Moi, j'ai fait des films aussi comme directeur de la photo pour la télévision flamande. Mais après, je voulais faire mes propres films parce que autant de respect que j'avais tellement de directeurs de la photo sur de films italiens, par exemple de Antonioni, de Visconti, de plein de gens que j'admirais beaucoup. Mais je trouvais quand même être un peu l'esclave du réalisateur qui lui partait avec la coupe. Oui, c'était son film de réalisateur et pas du directeur de la photo. Donc je voulais faire mes propres films, mais je n'ai jamais réussi à trouver l'argent, à trouver à créer des scénarios. Le grand avantage de faire la photo, c'est quand même, surtout à l'époque, on pouvait encore développer ses propres films. Et c'était nettement moins cher pour produire. Et en plus, ça pouvait être un métier sur lequel on pouvait quand même gagner sa vie, parce que bon, j'avais pas un rond, donc il fallait. J'ai parti à Paris très jeune, et j'ai commencé à travailler un peu dans la mode. J'ai travaillé pour elle, j'ai travaillé pour des brochures de voitures. C'était pour Citroën, j'en ai fait beaucoup. C'est Robert Delpire, qui est un grand éditeur, qui avait aussi une agence de pub.
Oui, là, c'est important d'évoquer Bob Delpire et ta rencontre avec lui. Bob, qui reste pour nous un modèle d'éditeur photo, et qui a toujours sa maison.
C'est lui qui a fait tous les grands livres de Cartier-Bresson, de Robert Frank. Au début, le premier, c'était lui qui l'avait fait. Il adorait découvrir des choses et il m'a pas seulement donné du travail, mais il m'a donné aussi mes premiers expos. J'en ai fait 3 chez lui. Il a fait mon premier livre qui s'appelle Lumière blanche, qui était une genre de rétro au Palais de Tokyo quand il dirigeait ce qui était devenu le CNP, le Centre National de la Photo. Donc c'est quelqu'un qui m'est très cher et qui je lui dois beaucoup.
Et de là, tu arrives en 1984 à Magnum?
Ah oui, ça. Je ne sais même plus.
82, 84.
82, je pense.
Oui.
82.
Pardon.
Écoutez, oui, Magnum, ce n'était pas pour moi. Pour certains photographes, c'est un genre de truc. Il faut absolument arriver à
être
dans
Magnum. Magnum,
genre
c'était,
mec,
c'est la
mais
mec,
bon,
oui.
Pour moi, ce n'était pas ça. C'était un truc pratique. C'est quand même des gens, certaines personnes que j'aimais bien. Et pour moi, c'est un peu un truc pratique parce que comme je bougeais tout le temps, j'avais un bus Volkswagen dont parfois je traînais mes originaux et tout ça, donc c'était un camping, et je voyageais beaucoup avec ça au Maroc. Donc je me dis, putain, c'est quand même mieux d'avoir un lieu fixe, un bureau quelque part où je peux stocker mes affaires. Et que aussi ça peut être faire un peu d'argent avec la reproduction de ces photos-là.
Il
pour laquelle
rappeler.
Magnum, et c'était ça le but de Magnum, en fait, dès le début, c'était garder les droits et ne pas les céder complètement au magazine et pouvoir les revendre après à des autres journaux. Donc c'était ça le principe.
Il faut dire que Magnum était et toujours une coopérative qui appartient aux photographes qui en sont membres. Mais qu'entrer à Magnum, ce n'était pas une si simple affaire parce qu'il fallait être coopté. Il y avait une période de purgatoire et accepté. Et d'ailleurs, ton arrivée a été l'objet d'un débat. Ton style n'était pas franchement celui de Magnum.
Magnum, à l'époque, en 82, c'était quand même... Les magazines, c'était quand même encore des choses très, très importantes. C'est beaucoup moins important maintenant. Parce que, bon, il y a beaucoup moins de magazines, beaucoup moins intéressants, beaucoup moins de pages. Donc, et il y avait un truc très journalistique aussi dans l'agence. Il y avait certains photographes qui juraient que, comme des fanatiques religieux, uniquement par le noir et blanc et le reportage engagé. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, j'avais photographié, par exemple, la télé couleur en faisant des zooms dans l'écran, en faisant des choses. Et c'était surtout la couleur qui m'intéressait. Donc, il y avait un certain groupe minimum, c'était avec quelques personnes, mais qui disaient, oh là, c'est la fin de Magnum, si un mec, entre guillemets, artiste rentre là-dedans, qui n'est pas du tout, qui n'a jamais fait une manif, qui n'a jamais fait une guerre ou rien du tout. Donc, mais malgré ça, je suis quand même passé, au début, tu rentres comme nominé, il faut avoir 50% des votes. Je les ai eus, après il fallait 75 pour devenir associé, je les ai eus, et après membre, donc je n'ai jamais été rejeté. Mais j'étais un des premiers qui... Après, on a été chercher des gens beaucoup plus pour leur personnalité et beaucoup moins de journalistes. Maintenant, autrement on serait mort. On cherche des personnalités, des gens qui ont une vision personnelle. Donc les choses ont pas mal changé depuis, heureusement.
Et cela dit, Magnum, qui était donc à l'époque et qui ne l'est plus, tu as raison de le souligner, hein, la mecque du photojournalisme, alors que le reportage ne t'a jamais véritablement intéressé, que ce n'est pas ton sujet, ce n'est pas ton approche, j'aimerais que tu nous parles un peu de ça, et que le choix de la couleur d'ailleurs est un autre rapport à l'image que tu aimes expliquer, plus sensuel. Une relation plus émotive et non descriptive qu'est celle du photojournalisme.
Bon, par où on commence
Le réel, le rapport au réel et ton rapport plus sensible, plus sensuel à l'image et aux formes aussi.
Mais si on travaille en couleur, il faut que la couleur soit primordiale. Autrement, ce n'est pas la peine. Autrement, on fait des photos noires et blanches colorées. Il y a pas mal de photographes d'ailleurs qui travaillent pour le magazine, parce que même dans Magnum, qui étaient un peu obligés de faire de la couleur, parce que le magazine, il commence à faire de la couleur, il voulait de la couleur. Donc c'était comme du noir et blanc colorié. Il faisait de double page pour magazine, en fait. Si on fait de la couleur, il faut une approche très différente. Il faut vraiment que la couleur soit primordiale. On ne compose pas de la même façon, on ne voit pas les mêmes choses, on est attiré par autre chose. Donc, j'avais un rapport un peu compliqué avec mon pays natal, la Belgique, et au lieu de faire une thérapie, je dis je vais faire des photos. Donc, j'ai commencé à travailler, mais je ne voyais pas de couleur en Belgique. Tout me paraissait gris. Donc, moi qui avais travaillé au Maroc, en Égypte, aux États-Unis, la couleur était beaucoup plus présente. Je dis, bon, comme je ne vois pas de couleur, je commence à travailler en noir et blanc. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé en noir et blanc, mais petit à petit, je commençais à regarder ce que je voyais de façon assez différente. Je dis, c'est quand même intéressant. C'est quelque chose, une certaine beauté de la laideur, d'une certaine banalité qui commence à m'intéresser. J'avais, ce qui m'avait influencé aussi, je pense, j'avais découvert à New York le pop art qui était en 68. Et ça m'avait appris de regarder la banalité différemment, pas comme un Européen en disant « Ah, c'est mauvais goût », mais avec un intérêt et un certain sens d'humour, qui était quand même assez dans le pop, qui est très présent. Donc, petit à petit, je commence à travailler en même temps en noir et blanc et en couleur. Et je commence à trouver la couleur plus intéressante, donc j'ai laissé tomber le noir et blanc. Et finalement, mon travail sur la Belgique est devenu un travail très haut en couleur. Ça m'a surpris moi-même. Le premier livre que j'ai fait sur la Belgique avec Delpierre, qui s'appelle Made in Belgium, c'était uniquement de la couleur. Et c'était à partir de tirages qui étaient beaucoup moins bien de ce que je peux faire maintenant. Le deuxième livre s'appelle Roots. Et là, j'ai mis du noir et blanc au début et la couleur après. Et c'est assez intéressant pour voir ce qui est en commun et ce qui est différent. Malheureusement, le livre, tout a été vendu, il n'existe plus.
Donc, justement, là, tu fais allusion... j'aimerais que tu en parles parce qu'on n'est pas forcément une assemblée de techniciens, mais quand même, la révolution numérique a apporté un changement important pour toi. Et ce que tu as pu faire en cibachrome analogique, on peut constater la différence, notamment entre le premier livre sur le Maroc que tu avais fait avec un éditeur allemand, Marocco, et celui que tu as fait avec nous.
Bien sûr. C'est que, donc moi j'ai toujours travaillé en argentique avec un film qui s'appelle Kodachrome en 24-36. Et malheureusement, le film est mort. Kodak s'est arrêté de le fabriquer, et, comme beaucoup d'autres films. Et donc, pour moi, c'était dramatique parce que putain, on arrache mon œil. Et donc, le numérique a la prise de vue. Heureusement, c'est devenu beaucoup plus intéressant qu'au début, que j'aimais pas du tout ça, mais c'est beaucoup amélioré. Donc maintenant, je suis de pile mort du Kodachrome, je travaille en numérique à la prise de vue, mais le grand avantage du numérique, c'est le tirage. C'est qu'il y a moyen beaucoup plus d'interpréter. Moi, je passe beaucoup plus de temps à éditer et faire des tirages que faire des photos. Et c'est un peu... Les deux choses sont intéressantes. Je préfère faire des photos, mais je passe beaucoup plus de temps, en fait, à faire des tirages. Avec le numérique, il y a moyen de beaucoup plus contrôler les choses d'une façon beaucoup plus nuancée, beaucoup plus locale, beaucoup plus interprétée. Avant, je faisais des tirages si bas, souvent, qui étaient intéressants, mais qui étaient surchargés. C'était très difficile d'avoir des détails dans les ombres. Et donc, le premier film dont parle Marianne, avec Simon Moselle, c'était à partir de ça. Le livre a un caractère à soi, mais moi, je ne l'aime plus. C'est le livre qu'on vient de faire, Mort, qui est là. C'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus contrôlé. Ce qui est très étonnant, c'est que, et c'est souvent mon cas, c'est que je travaille tellement longtemps sur des sujets, par exemple le Maroc, dans ce livre-là, il y a des photos qui ont presque 40 ans et des photos qui ont 2 ans ou 3 ans. Parce que je me dis, à chaque fois, j'ai passé peut-être 1 ou 2 ans là-bas. Pas tout le temps, mais je vais 1 mois, je vais 2 semaines, je retourne une autre année. C'était vraiment pour moi, le Maroc, c'était comme une drogue. Quoi. Je trouvais que c'était un pays, j'avais tellement découvert ça comme un... Pour moi, c'était comme une peinture de Bruegel. Je tombais dans un autre univers que je ne connaissais absolument pas. Ça m'a vraiment beaucoup intéressé.
Et justement, pour revenir à cette question de ta distance par rapport au reportage, ce pays que tu connais maintenant si bien, avec qui tu as une relation extrêmement intime et où tu aimes revenir, où tu es tant revenu, Tu n'as jamais cherché à en délivrer une forme de récit objectif. Ça n'a jamais été ton sujet. Et à propos de ça, je revoyais dans un des textes, je ne sais plus dans quel bouquin, tu disais, mais c'est, on ne reproche pas à un romancier de s'intéresser à un autre sujet que le sien. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
Ben, moi, je ne me dis pas, pour commencer, artiste. C'est que si des gens trouvent que je fais certaines touches que j'ai fait, c'est de l'art, moi, je vais bien. Ben, je suis content. En fait, je travaille pour moi. C'est vraiment complètement égoïste. Moi, je travaille pour moi, pour mon propre plaisir. Et pour, c'est ma vie, quoi. Donc, voilà. Si... qu'est-ce que c'était la question ? Pardon.
C'est toi qui l'as dit, on ne reproche pas à un romancier de s'intéresser à un autre sujet que le sien.
Ah oui, oui. Donc ce qui compte, c'est vraiment la personnalité de quelqu'un. C'est en art en général, c'est que, au cinéma par exemple, je peux admirer un bon film hollywoodien, très bien fait, mais si je ne sens pas une inner need, en anglais, un besoin profond de quelqu'un, de faire cette chose-là, pour moi, c'est pas de l'art. Il faut communiquer avec la personne qui l'a fait. Il faut reconnaître la personne qui a fait ses obsessions, ses goûts. Et c'est une communication avec les acteurs, comme on communique avec Rembrandt quand on voit ses tableaux, comme on communique avec Matisse quand on voit ses tableaux, comme dans le cinéma, quand je vois un film de Cassavetes, je communique avec Cassavetes et pas seulement le produit. Donc, on peut être très bon professionnel, on peut aussi faire des bons double pages pour le magazine. Mais en ce qui concerne le magazine, moi, je n'ai jamais voulu travailler non plus pour eux parce que je sentais bien le danger. Je connaissais même dans Magnum pas mal de photographes qui faisaient un très bon boulot professionnel, mais qui faisaient finalement des double pages pour le magazine, qui sentaient à travailler pour un but précis. Tandis que moi, je travaille pour moi. Donc c'est ma vision perso qui compte. Je dis parfois, je peux aussi faire des travaux professionnels où je peux penser à... Parce que, par exemple, j'ai fait énormément de travail de commandes, d'industrie, un peu partout dans le monde. Et donc là, on pense quand même beaucoup plus à la personne qui commande. Autrement, ça ne va pas se reproduire. Mais malgré ça, j'ai fait un travail très perso là-dedans, parce que c'est souvent visuellement très intéressant, ce lieu-là, et on ne peut pas y entrer si on n'a pas en commande. Donc, j'ai fait une expo assez importante avec le 70 à Bologne, il y avait un festival fait par François Ebel sur la photo industrielle, et j'ai fait une expo là qui était vraiment le coup, et dont j'étais vraiment très content. Donc...
Et en même temps, ce qui est frappant dans ces images industrielles, ces images de commande, c'est qu'elles sont souvent très poétiques ou très étranges. Et effectivement, on ne ressent pas le travail de commande, mais on ressent vraiment, encore une fois, ton regard. Et c'est des images qui pourraient avoir la place dans ce livre, même si tu as été très exigeant dans le fait de limiter le nombre d'images.
Mais souvent, il y a des choses assez mystérieuses parfois. Par exemple, quand même, bon, je suis belge. Le surréalisme, quand même, en Belgique, jouait un très grand rôle. Moi, je n'étais pas tellement au courant de ça, mais quelque part, ça m'attire comme Magritte, comme des gens comme ça. En ce qui concerne, par exemple, les rivages, souvent, on me demandait, en fait, le rivage, ça n'a jamais été un concept pour moi. Il y avait question de faire une expo à Arles, mon premier expo à Arles. Donc, avec François, on regarde tout ce que j'ai fait. Est-ce qu'on va faire la Belgique, le Maroc, si c'est ça, plein de choses que j'ai fait. Je dis, ça, c'est bizarre, j'ai autant de photos de rivage. Je ne le savais même pas. Donc, j'étais visiblement attiré par ce lieu-là, le bord de mer, le bord de rivière et tout ça, avec un ciel très, très pesant, souvent tourmenté, et ainsi de suite. Mais c'était complètement intuitif, parce que moi, je ne suis pas du tout dans le concept. Alors,
oui,
m'a souvent demandé comment ça se fait, ainsi de suite. Après, je me dis, quand même, dans le 16e, 15e, 16e siècle, il y avait beaucoup de peintures hollandaises, flamandes, de peintures de ciel très chargé, de bord de mer avec des trompettes et des choses comme ça. J'ai vu ce tableau-là, et peut-être en étant flamand, peut-être aussi j'étais attiré par ça. Il y a des choses assez mystérieuses qui se passent au point de vue être attiré par certaines choses. Avoir un truc en commun. Quoi. Moi, par exemple, quand je suis devant au Prado, par exemple, dans la peinture flamande, j'ai une grande affinité avec ça. C'est vraiment, je sens que c'est quelque part, ça vient de... J'ai quelque chose de très en commun. Qui va au-dessus de... Qui vient de... Je sais pas. Bizarre.
Oui, je me souviens quand on a fait le livre de Rivage, tu disais très... qui s'appelle Rivage, et qui s'appelait dans sa version anglaise The Edge, qui était peut-être encore le mot qui collait le mieux. Et tu disais, c'est étrange, en fait, je me suis effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, jamais rendu compte que je m'étais tant approchée du rivage. Le sujet de la plage ne m'a jamais intéressée. Et pourtant, on a fait un livre où la ligne d'horizon était toujours quasiment au même niveau. Et ça fait un livre comme ça très, très étonnant, très, très beau. Et par rapport à l'étrangeté dont tu viens de parler, notamment du côté des surréalistes, tu as parlé de Magritte, c'est Brice Mathiossin qui s'est toujours beaucoup intéressé à son œuvre, hein, qui est un grand traducteur d'abord, hein, connu pour son travail de traducteur chez Bourgois, et il n'est plus chez Bourgois aujourd'hui, où il a été directeur de collection, bref. Mais c'est aussi un professeur d'esthétique et un admirateur de l'œuvre d'Harry, sur laquelle il a écrit pas mal de choses. Et notamment, il souligne l'étrangeté de certaines des images d'Harry, parfois même le malaise qu'elles peuvent provoquer, et donc son lien avec l'univers surréaliste. Et quant à toi, Harry, tu aimes bien revenir donc sur les lieux du crime, si on peut dire, et tu aimes évoquer certaines étranges coïncidences que provoquent ces images, ou que ces images provoquent des rencontres, des retrouvailles, bref, comme un potentiel un peu surnaturel de l'image. Tu crois aux fantômes?
Oui, c'est vrai que souvent, mais c'est trop long pour lancer là-dedans, mais c'est...
Si, c'est bien, il y en a plusieurs qui sont chouettes de ces histoires. Bon. Celle du couple, par exemple, qui justement regardait un Magritte.
Ah oui.
C'est l'image d'un couple de dos, voilà, devant un tableau, et l'homme est chauve. Et on reconnaît le Magritte avec ce ciel, voilà.
Et donc je suis au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, je vais voir une expo de Magritte. J'ai mes appareils sur moi, il dit « Monsieur, pas de photo, il faut déposer les appareils. » Bon, je suis dans les appareils au vestiaire. Et je rentre dans la salle et il y a cette personne qui a une présence incroyable qui est devant un tableau de Magritte avec un homme crânasé avec un chapeau melon comme ça. Je dis putain, il faudra absolument que je récupère mes appareils parce que ce mec là est vraiment spécial. Je vais discuter pendant 10 minutes, j'ai perdu mon ticket, je râle, je sors, je cours par une autre entrée, je cours dans toutes les salles et je rattrape le mec à la fin. Et je fais 3-4 photos. Je fais une expo moi-même dans le même lieu au Palais des Beaux-Arts avec le début de mon travail sur la Belgique. Et la personne qui s'occupe de l'expo, il aimerait bien faire une affiche de ça. Bon. Il dit, je vais quand même aller voir Mme Magritte parce que, pour avoir l'autorisation, parce que Mme Magritte est encore vivante.
C'était Magritte, à combien d'années de distance la photo que tu as prise et l'expo que tu as faite?
Oh, pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Peut-être, je sais pas, je n'ai pas de notion du temps, mais peut-être 2-3 ans.
D'accord.
Je sais pas. Et donc, on fait l'affiche et on ne sait pas qui c'est. Quelques mois après, quelqu'un, je suis à Paris, j'habite chez une copine, quelqu'un m'appelle de Bruxelles en me disant « Bonjour, je suis l'homme au crânasé de votre photo. » Je dis « Oui, bonjour. » Il me dit texto. Est-ce que vous voulez bien photographier le plus beau visage du monde? Je dis, qu'est-ce que c'est? Je veux maintenant que je photographie de face, qu'est-ce que c'est? Il me dit, écoute, j'aimerais bien venir à Paris ce week-end avec la plus belle fille du monde et que j'aimerais que vous la photographiez. Je dis, c'est très gentil de penser à moi, mais le portrait, c'est pas mon fort. Moi, je suis plutôt un photographe de hasard, de la rue, ainsi de suite. Donc, je suis honoré, mais je pense que vous serez mieux adressé à quelqu'un d'autre. je décroche. En même temps, je regrette parce qu'il s'agit de surréalisme, il s'agit de ma vie, c'est déjà complètement incroyable. Où c'est, comment il m'a trouvé, tout ça, je ne comprends pas. Maintenant, il y a deux ans, je pense, une femme m'appelle de Bruxelles, donc 30 ans après, ou si ce n'est pas 40, je sais plus, moi, je n'ai pas de notion du temps. Donc, elle m'appelle, elle dit, est-ce que c'est vous qui avez fait cette photo? Je dis oui. Elle me dit, il faut que je vous explique. Ce monsieur qui est sur l'image, malheureusement, il est mort, mais c'était le meilleur ami de mon père qui avait 95 ans, et j'aimerais lui offrir l'image. Comment faire?
95 ans, ça fait...
95.
95.
Et je dis comment faire? Je dis, écoutez, je fais des tirages à différents formats, à différents prix, je lui explique tout ça. Il dit, ah, c'est très cher, j'ai pas beaucoup d'argent, il faut que je voie avec mon frère si on peut se permettre ça. Silence, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, je raconte l'histoire. Grand silence. Elle me dit, c'était sûrement moi, mais maintenant, je suis plus tout belle. Une tristesse infinie. Et donc, c'est fou comme les choses se bougent, se reviennent, comme un ping-pong ball, comme ça. Et c'est incroyable, quoi. Et moi, j'ai beaucoup d'histoires dans le même genre.
On a commencé à les...
Ouais. Mais
à les écrire, peut-être qu'un jour, on les publiera.
C'est compliqué. Donc, c'était la fille de son meilleur ami avec elle. Il voulait passer un week-end à Paris aussi. Donc, c'est peut-être pas complètement innocent, mais bon, j'en sais pas plus. Mais donc, je raconte l'histoire. La fille, pas un coup, tu vois, elle se rappelait de ça. Et qu'il y avait eu une tentation de oui.
Voilà. Je suis frappée de rencontrer chaque fois que je vais à un vernissage, tu es là. Qu'il s'agisse de photos contemporaines, qu'il s'agisse d'art contemporain, qu'il s'agisse de cinéma. Et je me dis, mais Harry s'intéresse vraiment à tout, parce que moi, je n'y vais pas si souvent que ça. Et je me dis que tu as cette permanente curiosité, tu demeures tout le temps en éveil et en même temps, ce qui me frappe dans ton travail, c'est l'extraordinaire rigueur et fidèle au genre photographique que tu as créé et comment des images prises à une grande distance dans le temps peuvent cohabiter dans un même livre en toute cohérence. Donc il y a à la fois chez toi, je trouve, cette générosité, cette curiosité pour le travail des autres et en même temps l'extraordinaire rigueur et cohérence de ce regard que tu veux, simplement, sensible.
Ben, ce n'est pas seulement l'intérêt pour l'art de maintenant. Ben, je vais toujours dans les musées, je vais tout voir. J'étais à Londres, là, je vais au British Museum pour savoir combien de fois. Non, ben, je vais à un Vermeer, je suis tellement ébloui. Je vais à un Bruegel, fantastique, je suis tellement ému. J'ai le problème maintenant. L'avantage que j'ai eu, moi, c'est que quand j'ai commencé, il y avait très peu d'influence. Je veux dire, les livres de photos étaient excessivement rares. Il y avait un livre de Irving Penn qui existait, un peu d'Avedon, mais il y avait très, très peu de livres. Il n'y avait pas... donc, je me suis... j'ai rentré... Au début, quand j'étais à Paris, j'étais voir des photographes que j'admirais, comme Bill Klein, par exemple, et après Jean-Louis Sieff, que j'aime moi, mais bon. Et j'ai découvert tout de suite que c'est compté. Je pense que c'est une question de technique. J'ai dit, ce serait bien venir assistant de ces personnes pour comprendre des choses, comment ils font. Parce que tout de suite, quand je vois dans les magazines leur travail, je sais que c'est lui. Je n'ai même pas la peine de regarder. Donc, je l'ai rentré et tout d'un coup, j'ai découvert comme ils ressemblent à leur image. De leur façon de comporter, de bouger. Klein, par exemple, très agressif. Il m'a invité une séance de photos où j'étais son assistant pour une demi-heure, pendant quelques heures seulement. Et j'ai compris tout de suite que ce n'était pas la peine de devenir assistant. C'était pas. C'est vraiment. Il faut vraiment forger sa personnalité. Le grand problème maintenant. Par exemple, j'étais à Arles pour une fois, déjà il y a quelques années, sur un jury à la fin d'année. Et j'étais étonné par le travail d'élèves, mais je dis, Ce bien trop regarder ça. Il y a tellement d'influence, il y a tellement de livres maintenant, il y a tellement Internet et tout ça, c'est qu'on se fait bombarder par tellement de trucs divers, et que ça peut être, que je crains, plus négatif que positif, dans souvent le cas. C'est mon opinion. Hein. Donc, c'est la personnalité qui compte, c'est son propre vision, sa propre... passion et pas de, celle des autres.
Oui, justement, j'allais te poser une question peut-être bête. Bon, tant pis, je l'avais préparée, donc je l'ai dit. Est apparue ces dernières années cette étiquette, depuis une petite dizaine d'années, de la street photographie. Généralement, on t'attribue souvent, on te colle cette étiquette. Est-ce qu'elle te convient ?
Mais ce qui est sûr, que je suis beaucoup plus ça dans ces nuances-là que dans la tradition très française et quand même très française de photo humaniste. Je suis absolument pas là-dedans. Je veux dire, je peux admirer un Doisneau, un Ronis et tout ça, mais c'est pas mon truc. Pour moi, c'est pas la personne qui est la plus importante. C'est pas. Et on fait ça mieux en noir et blanc qu'en couleur. Pour moi, c'est c'est l'univers, aussi bien l'architecture que les gens, que le ciel, que tous ces éléments qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc je ne suis vraiment pas là-dedans. Et j'ai sûrement beaucoup plus de choses en commun avec une photographe américaine que, un peu malgré moi, je veux dire, je ne connaissais pas ça. Par exemple, quand j'ai fait la première expo de Eagleston en 1976 à New York, j'étais ébloui par ce qu'il faisait et tellement étonné, mais en même temps j'étais déjà sur la même ligne, donc c'est pas quelque chose que j'ai vu, j'ai pas vu son travail et puis j'ai commencé à travailler comme lui, non.
Oui, non, Eagleston n'a pas été une influence, ça a été un cousin.
Non, ça a été une assurance, disons, de voir que ça, et puis j'aime bien son travail, pas tout d'ailleurs, je trouve maintenant qu'il sort beaucoup trop de livres, il est vraiment incroyable, il sort même des choses que j'ai jetées dans la poubelle, donc c'est un peu, c'est malheureusement ce fils qui le pousse à sortir des livres tout le temps, à tout le temps faire des trucs, mais il y a des choses qui sont formidables, des choses, selon moi, beaucoup moins intéressantes, donc
et Saul Leiter ?
Saul Leiter, ce qui était marrant, c'est que quand j'ai présenté à Elle Magazine en 62-63 pour travailler, il y a Peter Knapp qui est artistique, qui m'a dit « Tiens, tu es le petit Saul Leiter qui faisait travailler comme mode. » Et je savais pas qui c'était Saul Leiter, j'ai seulement découvert Saul Leiter il y a peu de temps, peut-être il y a 10 ans. Et là, j'ai compris de quoi il s'agissait. Mais c'était pas. Mais Knapp avait vu ça dans mon travail déjà, qui était nul à l'époque. Je ne sais pas ce que je montrais à l'époque. C'était vraiment. Je venais de commencer, c'était vraiment pas grand-chose. Mais quand même, il m'a fait travailler. Et il a vu quelque chose de semblable. C'est assez sensible de sa part.
Donc vous aurez remarqué Harry qui se juge nul à ses débuts, qui est exigeant aussi avec les photographes qu'il admire néanmoins. Harry n'a pas l'ego surdimensionné de bien des artistes que je connais, que j'admire, que j'ai la chance de publier. Harry est tout en réserve, tout en modestie. Et quand je lui avais proposé le premier livre il y a 15 ans, sa carrière était quand même déjà très avancée et il était très reconnu dans le petit monde de la photographie, et je voulais faire donc un projet transversal à son œuvre. On l'a fait 15 ans après. Il m'a dit, tu n'y penses pas, c'est vraiment beaucoup trop tôt. J'ose pas dire quel âge tu avais à peu près à l'époque, mais pas mal des petits jeunes de Magnum avaient déjà plusieurs bouquins derrière eux. Et puis il y a eu cette expo à la Maison européenne de la photographie au printemps dernier, et la RATP à Paris, qui soutient la photographie, a commencé un genre d'événement étonnant. C'est en partenariat avec les musées qui exposent de la photographie. Ils en exposent 4x3 dans le métro. Donc les photos d'Harry ont été montrées pendant longtemps, parce que certaines sont restées presque deux mois.
Tout le long de l'expo, et c'était vraiment très impressionnant. En plus, on avait fait des expos différentes dans différentes stations. Il y avait 16 stations. J'aurais aimé de vous le montrer, mais finalement, je ne l'ai pas. C'est assez station différente. Une expo, c'était le Maroc, l'autre, c'était la Belgique, l'autre, c'était les vaches, l'autre, c'était le TV Shot, ainsi de suite, ainsi de suite.
Et 4 par vraiment... 3 en immense. Et donc, c'était. Moi, au début,
au lieu de la pub,
il
y avait ça. Donc,
par à exemple, la place de la pub.
Donc, par exemple, à Saint-Paul, c'était un truc de 30 mètres de long. C'était comme un grand travelling qu'on pouvait faire et c'était la Belgique.
Et donc, ça a permis, ça a décuplé le public des visiteurs de l'expo. Nous, le bouquin, on a même pas pu attendre l'effet RATP, l'effet métro, puisqu'on on a lancé une réimpression 10 jours, peut-être même pas après sa mise en place, qui est quand même rare aujourd'hui. Et donc, voilà enfin la reconnaissance par un large public au-delà du cercle des initiés pour qui tu as toujours été une référence, un modèle très très important. Alors ça fait quoi d'être connu et reconnu?
Ça fait bizarre quoi. Ça fait bizarre, mais c'est pas désagréable, hein. Non, j'étais un peu, je suis un peu. Il y en a raison. Ce qui montre pour moi, c'est la vie de certaines personnes autour de moi et des gens que j'admire. Donc, je travaille. Et je dis, je travaille pour moi, pour mon propre plaisir. Quand c'est devenu beaucoup plus large, tout d'un coup, j'étais étonné par les réactions souvent intelligentes. Et ce qui était étonnant, c'est que les gens parlaient beaucoup de plaisir. Ça veut dire, dans le métro, dans l'expo, ils me disaient « Ah, mais quel ravissement Ah, j'ai adoré ça !» Bon, tant mieux. Tant mieux que c'est pas le contraire. Mais c'était plutôt agréable, bien sûr. Et surtout la notion de plaisir. Des gens vraiment, des gens qui m'ont parlé avec passion de ce qu'ils ont vu.
Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre présence, de votre écoute. Arrive peu.